Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Vivante Église. La question de la fin de vie est aujourd'hui au cœur des préoccupations de beaucoup d'entre nous et de notre société en général. Sachez qu'un colloque lui est consacré jeudi 4 décembre à l'Institut catholique de Toulouse, co-organisé par l'ICT et l'Institut du droit de l'espace des territoires, de la culture et de la communication, en partenariat avec la chaire Jean Rodin. Nous allons vous présenter cet événement, son programme et ses intervenants au cours de cette émission. Pour vous présenter ce colloque accompagnement de la personne et fin de vie, je reçois Aude Bernard, docteur en droit, maître de conférence à la Faculté libre de droit de l'ICT et titulaire de la chaire Jean Rodin. Je reçois également Lucie Sourza, maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole. Bienvenue mesdames. Ce colloque Merci. N'est pas le premier événement auquel participe la chaire Jean Rodin, puisque la fin de vie, c'est un sujet sur lequel vous travaillez avec les autres membres de la chaire depuis des années, Aude Bernard, au moins depuis 2021, à travers la réflexion que vous menez sur les enjeux liés au grand âge dans la société française d'aujourd'hui.
Tout à fait. Alors bonjour Eric, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir Eric et de pouvoir m'exprimer sur les sujets qui concernent la chaire. Alors vous avez parfaitement raison, le grand âge c'est un sujet qui est un petit peu fil rouge au sein des travaux de la chaire que nous avons déjà commencé à travailler à partir de 2020-2021 à l'issue de la crise Covid. Nous sommes dit que nos aînés n'avaient pas forcément été traités de la meilleure des façons et que cette crise Covid avait révélé les failles et les faiblesses de notre système actuel de santé et d'accompagnement dans le grand âge. Donc en décembre 2021, nous avions fait une grosse journée sur « penser la vieillesse » et « penser la dépendance » avec un jeu de mots sur le terme « penser », P-E-N et P-A-N, qui avait réuni beaucoup de personnes et qui avait permis d'aborder ce thème qui jusqu'alors n'était pas un terme d'actualité ou très abordé. Nous avons renouvelé l'expérience en mai 2023, cette fois-ci en partenariat avec l'Université de Bordeaux. Nous avons étudié l'aspect « comment vivre et désirer jusqu'au bout » quand on est dans le grand âge, avec des professionnels de terrain, avec tous les acteurs, des universitaires et le milieu académique également qui étaient présents. Ça a été une journée qui était particulièrement riche en rencontres, en anecdotes, en réflexions, puisque souvent on a tendance à considérer que le grand âge entraîne un renoncement à certains plaisirs que l'on peut connaître lorsqu'on n'est pas dans cette période d'âge. Et en réalité, pas du tout. Et je me souviendrai toujours de l'anecdote d'ailleurs d'une directrice d'EHPAD qui nous a dit « mais moi j'ai déjà célébré des mariages dans un EHPAD ». Alors voilà, il y a évidemment un encadrement juridique à respecter, bien sûr, mais le grand âge ne signifie pas la fin de toute une vie. Alors suite à ces deux belles journées, nous avons travaillé en mars 2025 et vous m'aviez fait le plaisir de me convier sur la question de la spiritualité, puisqu'en fait, ce qui nous était apparu au travers des deux journées précédentes, c'est le fait que les personnes qui sont dans cette période dite grand âge sont des personnes qui avaient l'habitude, pour des raisons, soit par conviction personnelle, soit par habitude familiale, d'aller à la messe le dimanche matin. C'était assez rythmé. Et finalement, ce sont des personnes qui se retrouvent maintenant coupées de toute spiritualité parce que c'est difficile à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas les moyens pour le mettre en œuvre, parce qu'on ne fait pas l'effort, parce que voilà, pour une multitude de raisons. Alors même qu'on était dans une période de vie, enfin on est dans une période de vie, le grand âge, où la spiritualité est souvent très forte et on a besoin de se raccrocher à la spiritualité. Donc nous avions fait cette journée en mars qui avait été très riche également, avec des témoignages de plusieurs religions monothéistes, et puis évidemment des acteurs de terrain, encore une fois, puisque c'est la force de la chaire Rodin, c'est toujours d'allier le savoir académique et le retour de terrain pour être le plus proche possible de ce que vivent les gens et de ce qu'ils ressentent. Et cette journée grand âge et spiritualité avait été particulièrement intéressante. Alors, évidemment, le législateur nous a amené à proposer une quatrième journée d'études. puisque les travaux ont repris de plus belle malgré l'instabilité politique que nous connaissons sur la question des soins palliatifs et de l'aide active à mourir. Et c'est tout naturellement que j'ai eu plaisir à m'associer à Madame Lucie Sourza, qui a déjà travaillé sur la question de la fin de vie et des territoires. Et je suis très heureuse que la chaire Rodin puisse être cette fois-ci en partenariat avec l'Université Toulouse Capitole, puisque ça va être une belle journée le 4 décembre et nous allons avoir l'occasion d'en parler.
Oui, alors on va parler tout de suite des objectifs généraux de ce colloque et de ceux qui vont y participer. Quels sont les types de profils que vous avez conviés lors de ces deux demi-journées? On va parler dans quelques instants aussi des thèmes, des sous-thèmes des deux demi-journées, la matinée et l'après-midi. Peut-être Lucie Sourza.
Oui, merci beaucoup Eric pour votre invitation. Merci aussi à Aude donc, de partager ce beau projet à mes côtés. Alors effectivement, l'impulsion pour cette journée d'études a été notamment donnée, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, par un vote en première lecture de deux propositions de loi au printemps dernier, l'une consacrée à l'accompagnement de la personne et aux soins palliatifs et la seconde proposition de loi consacrée à l'aide active à mourir. Donc la proposition de loi relative aux soins palliatifs a été votée à l'unanimité, donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Par contre, le texte qui fait un peu plus débat, c'est celui sur l'aide active à mourir. On verra ce que le Sénat dira dans les prochains mois. Et concernant cette journée d'études, donc, nous l'avons scindée en deux grands axes. Un axe consacré aux évolutions à venir et un second axe consacré aux enjeux. Alors, concernant les intervenants de cette journée, donc je vais évoquer certains d'entre eux et Aude Bernard prendra le relais. Donc, tout d'abord, nous avons sollicité des universitaires, parmi lesquels le professeur Joanne Saison, qui va notamment travailler la question de l'accompagnement de la fin de vie au domicile, puisque c'est un point qui est très important, on le sait tous. Madame Claire Sourza, qui elle donc est pénaliste à l'Université de Bourgogne, qui apportera quant à elle son point de vue d'universitaire sur l'aspect pénal, notamment en ce qui concerne la question de l'aide active à mourir. Madame Flora Bastiani, qui est philosophe, qui, elle, de son côté, évoquera la question éthique pour notre santé de demain à travers le prisme philosophique, bien évidemment. Et en ce qui concerne les professionnels que je présenterai, eh bien, nous avons le docteur Marie Bourgoin, qui est médecin d'équipe mobile de soins palliatifs, qui va apporter son point de vue de terrain. Et pardonnez-moi, j'ai oublié deux universitaires. Le professeur Bettina Couder, qui donc, de son côté, en sa qualité de responsable du comité de réflexion éthique à l'IUCT Oncopole, eh bien, apportera cette question l'approche qui pourrait être faite au niveau du comité de réflexion éthique. Et moi-même, enfin, en ma qualité d'universitaire également, qui traitera notamment de la question de l'évolution de notre législation à travers le prisme temporel. Puisque quand on analyse la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, on se rend compte de l'importance qui va être donnée à l'avenir sur la question de l'anticipation de la prise en charge du patient dès lors que celui-ci reçoit un diagnostic de mauvais pronostic. Voilà, je cède la parole à Aude qui présentera donc les autres intervenants.
Alors, je vais juste préciser deux petites choses que j'aurais peut-être dû préciser au départ, c'est que on peut y assister gratuitement à ce colloque. L'entrée est libre, mais sur inscription. Il faut s'inscrire au préalable. On s'inscrit comment?
Oui, alors vous vous inscrivez via le QR code que vous pouvez retrouver sur l'affiche et le programme qui sont disponibles sur le site internet de l'Université Toulouse Capitole ou sur celui de l'Institut catholique de Toulouse ou de HR Jean Rodin. En cas de difficulté, n'hésitez pas à m'écrire directement aude.bernard@ict-toulouse.fr. Et comme vous le disiez, c'est gratuit. Nous offrons le café chaud et une belle salle. Ce sera en salle Léon XIII à l'Institut catholique de Toulouse de 9h à 18h.
Et on peut y assister aussi en visioconférence, comme à chacune de vos propositions de conférences ou de colloques. Mais il faut s'inscrire aussi
pour avoir
le lien.
Exactement. Il faut s'inscrire pour avoir le lien généré automatiquement ensuite. C'est gratuit, même si on est à distance. Voilà.
Sur la forme de ces deux demi-journées, donc ça se passe en deux temps, de 9h à midi et l'après-midi de 14h à 18h, est-ce que c'est sous la forme d'une suite de conférences ou est-ce qu'il y a aussi des tables rondes par exemple et des échanges avec le public?
Alors, table ronde, non. C'est un grand regret pour Madame Sourzet et moi-même de ne pas avoir pu en mettre en place, mais le temps nous manquait sur une seule journée, eu égard aux nombreux intervenants qu'on souhaitait faire venir. En revanche, on a consacré un temps de débat, puisque vous verrez sur le programme qu'une demi-heure est prévue pour chaque intervenant, mais en réalité, ils sont limités à 15-20 minutes d'intervention pour laisser 10 minutes d'échange avec la salle, puisque ce thème-là touche absolument tout le monde, ce qui explique d'ailleurs que la journée est vraiment ouverte à chacun qui souhaite se saisir de ce thème et en savoir davantage. Ce ne sera pas que d'un point de vue purement juridique. Et voilà, donc 10 minutes sont prévues après chaque passage pour qu'on ait une discussion avec la salle. Également, des pauses assez longues sont envisagées de façon à ce que si on grignote un petit peu sur le temps de la pause, ce ne soit pas une catastrophe pour l'organisation de la journée.
On va rentrer dans le détail du programme qu'a déjà évoqué Lucie Sourza. Donc deux demi-journées abordées avec des sous-thèmes. La matinée est sous-titrée « Quelles évolutions ?». Il faut comprendre quelles évolutions pour l'accompagnement de la personne et la fin de vie. C'est vous, Aude Bernard, qui allez présider cette matinée de conférences et de discussions. Tout de même, de 9h à 9h30, avec Lucie Sourza, vous accueillez les participants par quelques mots d'ouverture. C'est-à-dire que vous allez poser les bases des discussions et les sujets qui seront abordés dans la journée.
Oui, très rapidement, donc nous allons en effet réaliser cette petite ouverture, c'est-à-dire comment cette journée est arrivée, puisqu'il faut comprendre comment l'idée de ce partenariat est née, notamment au regard des derniers thèmes qui ont été travaillés sur le grand âge par la chaire Rodin, donc c'est quelque chose qui sera rappelé. Et puis également, nous mettrons en exergue cette double casquette que nous avons avec Lucie Sourza, à savoir droit public, droit privé, Toulouse Capitole, Institut catholique de Toulouse et plus précisément chaire Jean Rodin. Donc ça va être des regards croisés sur l'accompagnement de la personne, sur la fin de vie. Après, nous aborderons évidemment la question de l'actualité, mais sans trop développer, puisque comme cela a été précisé par Lucie Sourza, le rappel des actualités, enfin de l'actualité législative, va donner lieu à deux belles interventions en fin de matinée, par ma chère collègue et par le docteur Claire Fourcade.
Alors on va rentrer un peu dans le détail du programme de la matinée pour commencer, les sujets qui vont être abordés. Donc ça commence à 9h30, la tranche 9h30-10h, par l'accompagnement de la fin de vie à domicile.
Par le professeur Joanne Saison, qui est professeur de droit public à l'Université de Lille, qui ne pourra pas se déplacer mais qui sera avec nous en visio.
Oui, tout à fait. Elle travaille sur ce sujet du domicile depuis un moment maintenant. Et ce qui va être très intéressant, c'est de mettre en parallèle son intervention avec celle de Madame Mélodie Bourget en sa qualité de directrice d'EHPAD, qui elle apportera donc la vision, non pas du domicile, mais de l'accompagnement de la fin de vie en EHPAD. Donc deux visions, deux lieux différents. Et donc ce parallélisme des interventions sera particulièrement riche en enseignement.
Voilà, donc 9h30-10h, le docteur Joanne Saison, professeur de droit public, Joanne Saison qui intervient pour l'accompagnement de la fin de vie à domicile, et vous enchaînez avec l'accompagnement de la fin de vie en EHPAD de 10h à 10h30 avec madame Mélodie Bourget. Il y a une pause ensuite?
Oui, une pause est nécessaire puisque justement elle donnera lieu à des échanges et à des débats et puis à l'occasion de partager un café tous ensemble.
Donc on pourra continuer à discuter, prolonger la discussion
tout à fait.
Pendant cette pause d'une demi-heure. Et vous reprenez à 11h. Et là, c'est vous, Lucie Sourza, qui allez intervenir.
Oui, tout à fait. Comme je l'indiquais tout à l'heure, je souhaite aborder lors de cette journée la question du renouvellement du droit à l'aune des dynamiques temporelles. Donc, je souhaite appuyer plus particulièrement sur cette question de l'anticipation de la prise en charge de la personne qui vient, donc, je le disais tout à l'heure, de recevoir un mauvais diagnostic, de mauvais pronostic, c'est-à-dire un diagnostic à partir duquel on a peu d'espoir de pouvoir pratiquer un curatif effectif sur cette personne. Et la problématique aujourd'hui, c'est que bien souvent, soins palliatifs est synonyme des dernières semaines de vie de la personne. Or, c'est un tort. Et la proposition de loi qui a été votée à l'unanimité en première lecture insiste sur l'importance d'anticiper, on va dire le plus tôt possible, cette prise en charge palliative, afin de garantir une prise en charge de qualité du patient. Donc la question temporelle est très importante et c'est ce sur quoi j'insisterai ce jour-là.
Peut-être qu'il faut développer cette notion de dynamique temporelle parce que je ne suis pas certain que ce soit clair pour tous nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Alors c'est un titre peut-être effectivement peu accessible comme ça au premier abord, mais en fait ce que je souhaite évoquer, c'est tout d'abord comment le temps peut apporter quelque chose à la personne et comment le droit vient s'immiscer dans cet aspect temporel de la prise en charge. Et j'insisterai à cette occasion sur les différents aspects de la future proposition de loi qui, si un jour est adoptée définitivement, appuiera très précisément sur cette question de l'anticipation qui est absolument essentielle pour une prise en charge qualitative du patient.
C'est un sujet qui aujourd'hui est assez peu traité, abordé, en tout cas qui n'a pas fait l'objet jusqu'alors de vraies réflexions. On est un peu sur un champ encore un peu désert, si on peut dire.
Alors, pas tant que ça, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la doctrine juridique, on s'aperçoit que très souvent, cette dernière insiste notamment sur la question de l'aide active à mourir, ou plus communément appelé l'euthanasie. Donc on lit beaucoup, beaucoup de littérature juridique sur ce sujet-là, mais par contre, sur la question de la prise en charge palliative, sur la question de son cadre juridique, sur la question de la maîtrise de ce cadre juridique par nous, citoyens, mais aussi par le corps des soignants, est un peu moins traité par les experts juridiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle je souhaite appuyer sur ce point en particulier.
Il n'est pas en friche, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup à faire, si je comprends.
Exactement.
Bien. Et donc, vous terminez cette matinée de 11h30 à midi avec l'actualité législative de la fin de vie et des soins palliatifs par le docteur Claire Fourcade, donc, qui est médecin, ancienne présidente de l'ASFAP. Qu'est-ce que c'est l'ASFAP ?
Donc, c'est une association qui est vraiment consacrée à l'accompagnement palliatif. Et donc, Claire Fourcade a été la présidente très engagée de l'ASFAP pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, elle a cédé ses fonctions de présidente, mais elle est toujours très impliquée dans l'association. Et Madame Fourcade viendra également apporter son point de vue sur ce sujet des soins palliatifs, ce qui complétera les éléments que j'aurai présentés juste avant.
Votre rôle, Aude Bernard, en tant que président de cette matinée de discussion, ça va être aussi de distribuer la parole après les interventions de chacune des personnes qu'on vient de citer.
Tout à fait, ça va être le rôle très délicat du maître du temps. Et donc, de venir interrompre, ou sans interrompre, mais demander
faire
à ce que,
qu'il faut conclure, voilà, parce que
prochainement, il va falloir conclure. Alors, j'ai toute confiance dans nos intervenants, intervenantes d'ailleurs, plus précisément. Mais c'est vrai que par rapport au public, il faudrait être vigilant sur l'horaire, d'où le fait que nous avons vraiment prévu des tranches assez larges d'intervention pour pouvoir céder la parole sans être trop coincé par un temps
directif,
à respecter. Exactement, c'est ça.
Très agréable,
parce
évidemment.
Que c'est très important d'avoir ces échanges-là. Et nous, c'est la caractéristique de la chaire Audin, c'est vraiment de laisser à chaque fois un temps d'échange avec le public.
Midi 14h, pause déjeuner, c'est sur place, comment ça se passe ?
La pause déjeuner est en effet sur place, malheureusement, et j'aurais beaucoup aimé que la chaire Audin puisse inviter chaque personne du public, mais nous ne le pouvons pas pour des raisons financières. Donc il y a le self sur place de l'ICT qui est ouvert à tous, qu'on soit membre personnel de l'ICT ou qu'on soit extérieur, et qui est très agréable. Je salue d'ailleurs ici notre chef Eve qui fait un excellent travail. Et nous nous retrouverons donc à 14h pour la reprise des travaux, certainement 5-10 minutes avant. Voilà pour reprendre cette belle journée.
Voilà pour le programme de la matinée du colloque accompagnement de la personne et fin de vie qui a donc lieu, je le rappelle, ce jeudi 4 décembre de 9h à 18h à la salle Léon XIII de l'Institut catholique de Toulouse, de midi à 14h. Il est prévu une pause avant d'attaquer les conférences de l'après-midi et nous allons nous aussi faire une pause dans cette émission en musique comme d'habitude en écoutant un pianiste qui aura joué quasiment jusqu'à la fin de sa longue vie, Arthur Rubinstein, que nous allons écouter dans le célèbre et très beau Larghetto du concerto numéro 2 de Frédéric Chopin. Thank you.
présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour pour la seconde partie de cette émission consacrée au colloque accompagnement de la personne et fin de vie qui se tient ce jeudi 4 décembre à l'Institut catholique de Toulouse. Il est co-organisé par l'ICT et l'Institut du droit de l'espace des territoires, de la culture et de la communication en partenariat avec la chaire Jean Rodin. Je suis toujours en compagnie d'Aude Bernard et de Lucie Sourza qui vont présider ce colloque. En première partie d'émission, nous avons présenté les conférences et les intervenants de la matinée du 4 décembre autour du sous-thème « Quelles évolutions ?». Il faut comprendre quelles évolutions dans le domaine de l'accompagnement de la personne et de la fin de vie. L'après-midi, vous avez choisi le sous-thème « Quels enjeux dans ce même domaine ?». Alors, quels sont les enjeux d'un point de vue général dans ce domaine aujourd'hui ?
Ouais, écoutez, les enjeux, ils sont multiples. Et d'ailleurs, c'est à l'image de cet après-midi qui est prévu pour le 4 décembre, qui est très chargé. Les enjeux, ils sont bien sûr d'ordre éthique, mais ils sont également d'ordre juridique. Et quand on dit juridique, il nous faut préciser, ça va être d'un point de vue de droit pénal. Et c'est d'ailleurs l'intervention de Madame Sourza et du docteur Pierre-André Delplat, puisque nécessairement, la question de la fin de vie et de l'aide active à mourir ou de l'euthanasie va avoir des répercussions sur la qualification pénale de certains faits, mais également de droit civil. Le droit civil est souvent oublié et c'est là où je vous évoquais tout à l'heure la richesse de ce partenariat entre privatistes et publicistes pour envisager les questions qui vont se poser sur le notaire et sur son rôle dans l'accompagnement de la fin de vie, puisque le notaire est un acteur clé qui ne relève pas du corps médical, mais qui souvent, lorsque les personnes anticipent, participent à l'organisation de la fin de vie et de l'après, d'un point de vue successoral. Donc bien évidemment, le notaire sera impacté et je remercie Maître Isabelle Cross-Grigis qui sera présente avec nous pour nous évoquer ces questions-là. Les enjeux se portent aussi sur les libertés fondamentales. Il me serait délicat d'en parler davantage puisque le professeur Xavier Bioy, qui est une des références en matière de liberté fondamentale et de fin de vie, développera ces questions-là. Et puis les enjeux se portent bien évidemment au-delà de l'éthique, au-delà des domaines juridiques qui ont été évoqués, sur le rôle des médecins et des soignants. C'est-à-dire quelles vont être les conséquences si l'aide active à mourir arrive en France pour ces derniers.
Alors cette demi-journée consacrée aux enjeux de l'accompagnement de la personne et de la fin de vie est placée sous la présidence de Lucie Sourza. Oui. On va regarder avec vous peut-être le programme dont vous recommencez à 14h après la pause et jusqu'à 14h30 sur le thème, la fin de vie, le point de vue du pénaliste et du neuropsychiatre.
Oui, alors on porte le même nom, mais c'est Claire Sourza qui va apporter donc la vision du pénaliste, enfin de la pénaliste plutôt. Donc effectivement, elle est donc maître de conférence en droit privé à l'université de Bourgogne et elle va étudier la question aux côtés du docteur Pierre-André Delplat, donc qui est expert psychiatre et qui vont, comme l'a évoqué Aude tout à l'heure, qui vont donc travailler la question de l'aide active à mourir à travers le prisme des enjeux de droit pénal, mais aussi des enjeux de neuropsychiatrie. Donc, n'étant pas moi-même neuropsychiatre, je ne peux pas en dire davantage, je laisserai
en tout cas, ça me paraît être un sujet extrêmement délicat.
Oui, tout à fait, exactement, et comme l'a évoqué Aude tout à l'heure également, donc le point de vue d'un praticien du droit, maître, Isabelle Cross-Grigis, qui apportera cette vision du notaire, parce que, là encore, si jamais la question de la légalisation de l'aide active à mourir devait être vraiment acté, eh bien, cela va forcément poser des questions également de ce point de vue-là.
Oui, alors ça, c'est la conférence qui suivra, donc de 14h30 à 15h, donnée par Maître Isabelle Cross-Grigis. Le notaire et l'anticipation de la fin de vie, évidemment, le terme anticipation interpelle tout de même.
Ah oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en première partie. La question de l'anticipation, elle s'étudie du point de vue du soin, mais elle s'étudie aussi de ce point de vue-là. La question de l'anticipation, elle va aussi poser des questions d'un point de vue droit des successions. Cela va avoir forcément un impact très important. Donc, on va voir comment Maître Cross-Grigis va traiter la question.
Oui,
ça va être intéressant.
Cette question, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens, évidemment, lorsqu'on apprend la mauvaise nouvelle, quelqu'un qui est condamné, entre guillemets, on n'y pense pas toujours. Mais après, on entre dans des problèmes qui sont terribles pour la famille. Hein.
Exactement.
Oui, oui, oui. Puis il ne faut pas oublier que le notaire a quand même un devoir de conseil qui est très, très important. Hein. Ça relève de ses obligations, de ses responsabilités, de sa déontologie. Donc il va y avoir une obligation pour les notaires de se soumettre à ce devoir de conseil sur l'anticipation successorale de la fin de vie. Alors que, bon, alors maintenant je ne suis pas notaire, mais il y a peu d'informations sur les conséquences notariales l'aide active à mourir. Et voilà, c'est ça. Donc les notaires devront le prendre en compte si jamais, en effet, c'est légalisé en France, pratiquement du jour au lendemain, alors qu'ils sont tenus à un devoir de conseil pour lequel ils n'auront pas été préparés avant, ni même formés. C'est-à-dire que les questions qui se posent souvent pour les soignants de se dire est-ce qu'ils sont préparés, est-ce qu'ils sont formés, comment ils peuvent accompagner au mieux les patients qu'ils rencontrent, les malades, les mêmes questions se posent pour le notaire.
Oui. Oui.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose
qui n'est pas envisagé par le législateur.
Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure d'état de la doctrine. Et c'est vrai que sur ce point de vue, sur cet aspect-là, bien souvent d'ailleurs, les colloques et les journées d'études qui portent sur cette thématique n'évoquent pas du tout cet aspect successoral.
Oui.
Et comme l'évoquait Aude tout à l'heure, il y a quand même une lourde responsabilité qui pèse sur les épaules du notaire, qui va poser un certain nombre de questions tout à fait essentielles.
Donc la loi devrait évoluer bientôt pour, en quelque sorte, les obliger à...
Ils ne pourront pas faire autrement. Ils sont tenus par leur devoir de conseil. Donc il faudra nécessairement, lorsqu'ils reçoivent un client, qu'ils puissent informer ce dernier. Question qui se pose, auront-ils suffisamment d'informations? Auront-ils eu le recul d'analyser ces informations et de savoir comment se positionner? Et ensuite, juridiquement parlant, comment rédiger un testament en sachant que la personne a programmé ou non sa fin de vie? Mais alors cette question se pose pour le notaire, elle se soulève aussi pour l'assureur concernant les contrats d'assurance vie. Et en réalité, il y a toute une multitude de praticiens qui sont impactés comme ça. Alors bien évidemment qu'ils sont un petit peu en second plan par rapport aux médecins et aux soignants, mais qui vont être concernés. Je crois que ça, le législateur ne s'en saisit pas ou très peu, trop peu.
C'est ce qui me semble aussi pour avoir été confronté à ce problème il y a quelques temps. Donc il y a une pause ensuite entre 15h et 15h30, comme le matin. Une pause pour souffler, mais aussi pour continuer à échanger, à discuter avec les intervenants et avec toutes les personnes présentes. On reprend à 15h30 jusqu'à 16h avec un sujet là aussi qui n'est pas facile à traiter, liberté fondamentale et fin de vie. L'intervenant, c'est un professeur de droit public, Xavier Bueil, qui enseigne à l'université Toulouse-Capitole. Qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé « Liberté fondamentale et fin de vie » ?
Là encore, c'est vrai qu'on ne peut pas parler à la place de l'intervenant.
Mais quand on entend par liberté fondamentale...
Mais bien sûr, la question de la liberté fondamentale, elle draine énormément d'aspects. On peut s'interroger sur le droit à la vie, le droit à la mort. Hein. C'est quelque chose qui va fortement être mis au cœur de la réflexion. On va aussi pouvoir envisager la question de savoir si est-ce que cette future, peut-être, loi, si elle est adoptée un jour, va consacrer un droit à l'aide active à mourir. Est-ce que ça va être vraiment un droit subjectif de la personne qu'elle pourrait invoquer presque devant une juridiction, vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose qui va forcément être aussi évoqué, à mon sens, ce jour-là, mais également dans la suite du cheminement législatif de cette future loi. D'autres questions aussi, quid du droit à la protection de la santé, quid du principe d'égalité en droit face à ces nouvelles branches du droit qui vont pousser avec cette future loi, si elle est, je le répète, hein, encore une fois, hein, je mets des réserves, si elle est adoptée un jour, hein, puisque pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà, un florilège de questions d'un point de vue liberté fondamentale qui vont se rattacher directement à cet aspect de la législation sur la fin de vie.
Vous évoquez des questions aussi d'éthique qu'il y a derrière, et c'est là qu'on a besoin d'un philosophe ou d'un professeur de philosophie. Et la conférence qui suit, tout à fait logiquement de 16h à 16h30, est intitulée « Quelle éthique de la santé demain ?». Elle est prononcée par Flora Bastiani, qui est maîtresse de conférence en philosophie à l'université Toulouse 2. Bon, peut-être dire un mot sur Flora Bastiani elle-même. Est-ce que c'est un sujet qu'elle a travaillé déjà? Elle est déjà intervenue?
Oui, oui, oui. Madame Bastiani est une référence dans ce domaine sur l'éthique et la question de la santé. D'ailleurs, je crois qu'elle est souvent intervenue aux côtés du professeur Bueil.
Donc, ils travaillent souvent ensemble.
Voilà, c'est un jeu un petit peu
de
commentaires avec des points de vue croisés mais complémentaires.
elle aura des choses sans doute à préciser.
Il faut bien savoir
à chaque fois de quoi l'on parle. Hein. Et quand on parle d'éthique de la santé, pas de la fin de vie, là, de la santé, c'est encore une autre question.
Tout à fait, c'est une autre question. Et c'est d'ailleurs pour cela, cher Eric, que vous noterez qu'il y a une pause juste après, ce qui est rare dans l'organisation de ce genre de journée. Mais ça nous tenait à cœur avec Lucie, parce que je pense qu'à l'issue des deux interventions du professeur Bioy et de Madame Bastiani, les cerveaux auront
un peu surchauffé,
parce que ça fera appel à une vue d'ensemble sur finalement vers où allons-nous nous diriger, quelle conception nous ferons-nous de la santé, de nos libertés fondamentales, de ce droit à ou de cette liberté de. Voilà.
Mais c'est une vraie question de société, quoi. Voilà, on est vraiment dedans, hein, complètement. Donc, pause de 16h30 à 16h45, un quart d'heure seulement, cette fois-ci, pas une demi-heure. Vous reprenez à 16h45 jusqu'à 17h15. Et là, nous allons avoir une intervention de Bettina Couder, qui est professeure à l'université Toulouse 3. Décidément, il y aura Toulouse 1, Toulouse 2, Toulouse 3 qui seront sollicités. Donc, l'intitulé, c'est « Pistes de réflexion et interrogations de soignants » soumis au comité de réflexion éthique de l'oncopole Claudius Rego concernant la fin de vie. Alors, il est long, c'est intitulé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il va y avoir comme sujets qui vont être abordés?
Oui, alors là, c'est une intervention du professeur Couder qui est également donc responsable du comité de réflexion éthique de l'oncopole Claudius Rego et qui va, alors je ne peux pas parler à sa place, mais qui va vraiment traiter la question à travers le prisme de son rôle au sein de ce comité de réflexion éthique de l'oncopole Claudius Rego, étant donné que si jamais, là encore, on revient, on est vraiment dans une démarche purement prospective, hein, mais si jamais cette aide active à mourir devait être un jour légalisée, nécessairement, des questionnements éthiques vont se poser au sein même du corps soignant, et plus particulièrement au sein du corps soignant d'ailleurs, et l'avis du comité de réflexion éthique sera absolument essentiel sur tous ces aspects-là. Donc elle nous apportera son regard de responsable de ce comité à travers son expérience, puisqu'elle a une longue expérience en la matière, et ça nous apportera des éléments extrêmement riches, toujours bien évidemment dans une démarche prospective.
Qu'il y aura notamment les interrogations des soignants, c'est bien...
Exactement. Ils sont en première ligne. Ils sont quand même en première ligne.
A priori, c'est les mieux placés quand même pour...
Oui, oui. Il y a
aussi les questions que se posent les gens qui soignent.
Exactement. Et ils sont en première ligne, et raison pour laquelle d'ailleurs s'ensuit l'intervention du docteur Marie Bourgoin, qui est médecin d'équipe mobile de soins palliatifs également à l'IUCT Oncopole, qui est très impliquée dans sa profession et qui apportera à son tour cette fois-ci vraiment le point de vue du soignant de terrain. Et ça, c'est absolument, absolument essentiel.
Oui, parce que cette dernière conférence de 17h15 à 17h45, vous lui avez donné comme titre « Soigner les fins de vie ». Et je pense qu'il faut bien comprendre que toutes les fins de vie ne se ressemblent pas,
exactement,
que toutes les personnes ne se ressemblent pas non plus, même si elles sont atteintes de la même pathologie et qu'elles vont avoir le même traitement. Donc il faut à la fois soigner bien sûr, mais aussi personnaliser non seulement le soin, mais l'accompagnement.
C'est
ça plus compliqué.
Et tout à fait, il n'y a pas une seule fin de vie, il y a autant de fins de vie qu'il y a d'individus concernés. Et les équipes mobiles de soins palliatifs sont absolument essentiel pour accompagner ces personnes. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment ces médecins en équipe mobile ou ces médecins en soins palliatifs vont-ils devoir réagir si jamais, là encore, je reviens à cette condition, si jamais un jour l'aide active à mourir est adoptée et légalisée. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, l'accès aux soins palliatifs n'est pas encore garanti pour tout un chacun, que ce soit sur notre territoire métropolitain ou ultramarin, qu'il y a encore beaucoup d'inégalités d'accès aux soins palliatifs. Donc, une inégalité aux soins palliatifs qui n'est pas encore résolue à ce jour. Mais quid alors si... En plus, vient se surajouter la question de l'aide active à mourir par-dessus. Comment tout cela va se conjuguer? Comment tout cela va se coordonner? C'est une grande question qui va se poser non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les soignants, en premier lieu même.
Oui, alors justement, je me posais la question, est-ce que cette question de l'inégalité d'accès aux soins palliatifs va être abordée dans l'une ou l'autre des interventions des deux demi-journées?
Moi, personnellement, je vais l'envisager. Cette question de l'inégalité d'accès aux soins palliatifs, c'est un sujet sur lequel
elle est fondamentale.
Tout à fait. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis 2019, la question de l'inégalité d'accès aux soins palliatifs, non seulement du point de vue de la mise en application des outils juridiques pour garantir, censé garantir une égalité d'accès d'accès aux soins palliatifs, mais également des conséquences de cette inégalité d'accès aux soins palliatifs, parce que ça a des conséquences, certes, des conséquences concrètes dans la vie quotidienne de tout un chacun, mais aussi des conséquences juridiques. C'est-à-dire que ça porte non seulement atteinte aux fondements législatifs qui portent l'égalité d'accès aux soins palliatifs, et également nos fondements constitutionnels, issus de notre bloc de constitutionnalité. Donc ça a vraiment un impact juridique absolument majeur. Donc personnellement, en tout cas, je l'aborderai au sein de mon intervention du matin.
Donc la journée, la deuxième demi-journée, donc, se termine à 17h45. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de synthèse de tout ce qui aura été dit pendant la matinée et l'après-midi? Est-ce que c'est prévu?
Alors, pas de synthèse à proprement parler, puisque la parole sera cédée tout au long de la journée au public. On veut vraiment que cette journée soit construite sous forme d'échange. Donc, pas de synthèse particulière. Pas de publication non plus à l'issue de cette journée. Nous sommes posés la question avec Lucie. Et puis, pour diverses raisons, il n'y aura pas de publication. C'est pour cela, cher public, que si jamais vous souhaitez suivre cette journée, il faut venir ou il faut se connecter, puisqu'il n'y aura pas de publication ensuite de la dite journée.
À qui s'adresse prioritairement cette journée d'études, si tant est qu'elle s'adresse d'ailleurs prioritairement à quelqu'un? Elle peut vraiment intéresser à la fois toutes les catégories d'âge ou toutes les personnes, quelles qu'elles soient, leur profession ou
leurs études. Tout citoyen qui est intéressé par ces questions a sa place dans cette journée. Ce n'est pas parce que c'est organisé par deux juristes que c'est nécessairement que du droit, et du droit peut-être préjugé, difficile à comprendre. Ce seront des présentations qui seront accessibles, ouvertes à chacun et qui vraiment... Enfin, c'est comme ça qu'on a construit cette journée, c'est pour parler à tout le monde. Donc, tout le monde est le bienvenu, quel que soit l'âge, quelle que soit la formation, quel que soit le point de vue. Toute réflexion sera bonne à prendre.
D'autant plus qu'il y aura parfois des questions qui seront posées auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui seront très pertinentes.
Tout à fait. Nous, lorsque nous étions intervenus en 2023, la spiritualité nous avait un peu sauté aux yeux en se disant, mais c'est vrai que finalement la spiritualité n'est jamais abordée. Et c'est pour ça qu'on avait dédié une journée en mars sur ce thème-là, qui est souvent mis de côté et qui a d'ailleurs volontairement été mis de côté par le législateur.
Eh bien, nous allons conclure cette émission. Il est temps d'en terminer. Merci beaucoup d'en avoir été les invités. Je rappelle que le colloque Accompagnement de la personne et fin de vie a lieu jeudi 4 décembre de 9h à 18h à l'Institut catholique de Toulouse, salle Léon XIII. Il est co-organisé par l'ICT et l'Institut du droit de l'espace des territoires, de la culture et de la communication, en partenariat avec la chaire Jean Rodin. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire au préalable pour y assister. Donc, le QR code,
oui.
Ou envoyer un mail, rappelez votre adresse mail, Aude Bernard.
aude.bernard@ict-toulouse.fr. Mais sinon, vous avez le QR code qui est sur l'affiche et le programme, lesquels sont disponibles sur le site de l'Université Toulouse Capitole, sur le site de l'Institut catholique de Toulouse et la chaire Audin. Et à mon avis, vous aurez une réponse plus rapide en flashant le QR code qu'en m'écrivant. Mais voilà, je reste quand même à disposition.
Et puis, pour assister au colloque en visioconférence, il faut aussi s'inscrire au préalable.
Tout à fait.
Et ça génère ça au dernier moment.
Non. Et ça génère immédiatement le lien. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à même la veille au soir, même jusqu'au matin, si finalement votre agenda vous permet de nous rejoindre l'après-midi. Voilà. Et l'inscription est gratuite, quelle que soit la façon de suivre cette journée, en présentiel ou en distanciel.
Merci. Cette émission était animée par Éric Dupré. À la technique, Jonathan Botello. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou par mail à contact@radioprésence.com.